Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 12 janvier 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Niger, l'opposition revient au sein de la commission électorale qu'elle boycottait depuis 2017. Le second tour de la présidentielle est prévu le 21 février. En Ouganda, plus que deux jours avant la présidentielle de jeudi, les autorités ont ordonné le blocage des réseaux sociaux et messagerie sur le net. Un nouveau drame en RDC, le naufrage d'un bateau sur le fleuve Congo fait 6 morts et 16 disparus. L'exceptionnalisme américain dans le monde, c'est l'un des sujets abordés par le secrétaire d'État Mike Pompeo lors de sa toute première visite à la Voix de l'Amérique. Les démocrates essaient de lancer une seconde procédure pour destituer le président Donald Trump, qui qualifie cette tentative de totalement ridicule. Également dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. En Ouganda, l'organe en charge de la régulation des télécommunications a ordonné mardi à ses opérateurs Internet de suspendre l'accès à l'ensemble des réseaux sociaux et services de messagerie jusqu'à nouvel ordre. Une décision annoncée à deux jours de la présidentielle. Abdourahmane Dia.
Dans un courrier, la directrice de la Commission ougandaise des communications ordonne aux opérateurs de suspendre immédiatement tout accès à ces services, notamment Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal et Viber. Lors d'appels téléphoniques aux dirigeants de ces fournisseurs, les autorités ont fait comprendre que cette mesure a été prise en représailles de la fermeture par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président Yoweri Museveni. Facebook avait justifié cette décision lundi en expliquant que ses comptes formaient un réseau lié au ministère ougandais de l'information dont l'objectif était d'influer sur le débat public en amont de l'élection. Depuis lundi, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux et des services de messagerie en ligne ont rapporté des problèmes d'accès. Par ailleurs, mardi matin, la maison de Bobi Wine, principal adversaire du président Museveni, 76 ans, a été selon lui investie par les forces de l'ordre qui ont arrêté des membres de son personnel.
Au Niger, l'opposition appelle les candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle prévu le 21 février à se rallier à l'ex-président Mahamane Ousmane, arrivé deuxième face à Mohamed Bassoum, le candidat du pouvoir arrivé en tête. L'opposition a décidé de reprendre sa place à la Commission électorale nationale indépendante qu'elle boudait depuis 2017. Le point avec Nathalie Barge.
Les cinq membres nommés par décret à la CENI sont de la coalition CAP 2021, formée de 18 partis, dont l'un des candidats, l'ex-président Mahamane Ousmane, est qualifié pour le second tour de la présidentielle le 21 février. Amadou Ali Djibo, un des responsables de la coalition, a expliqué ce retour à la CENI par la nécessité de protéger les résultats du deuxième tour après les nombreuses fraudes au premier tour le 27 décembre, selon l'opposition. Mahamane Ousmane, crédité de près de 17% des voix au premier tour, affrontera l'ancien ministre de l'Intérieur et candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, arrivé en tête avec plus de 39% des suffrages. Le CAP 2021 a appelé à une alliance de toute l'opposition. Lundi, 10 candidats, dont l'ancien président Salou Djibo, ont formé une autre coalition, l'Alliance des candidats pour le changement, qui a proposé son soutien à tout candidat intéressé, moyennant un partage du pouvoir.
L'ancien président nigérien Goodluck Jonathan, émissaire de la CDA au Mali, est à Bamako. Il a entamé une mission d'évaluation de la transition près de 5 mois après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta. Goodluck Jonathan et sa délégation doivent notamment rencontrer le président de la transition Bandao et le colonel Assimi Goïta, vice-président de la transition qui a dirigé le coup d'État du 18 août. Le parquet guinéen a réclamé lundi un an de prison ferme contre Omar Sylla, une figure de l'opposition en troisième mandat du président Alpha Condé. Jugé pour trouble à l'ordre public et s'adressant à la présidente du tribunal, à qui il demande de bien juger, l'opposant déclare être un éternel prisonnier d'Alpha Condé. Ses avocats ont plaidé non coupable. Omar Sylla a été arrêté le 29 septembre. Il est détenu depuis et a entamé une grève de la faim qu'il a récemment arrêtée. L'armée camerounaise a assuré lundi avoir tué la veille quelques terroristes à Maoudou, un village dans le sud-ouest du pays en proie à une insurrection séparatiste anglophone, et démenti qu'il s'agissait de civils comme l'en accusent certains médias et ONG locales sur les réseaux sociaux. Cette opération a été conduite dans le strict respect des règles d'engagement, soutient l'armée dans un communiqué. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, les familles accompagnées des pêcheurs venus offrir leur aide se pressaient mardi au bord du fleuve Congo après le naufrage d'une péniche qui a fait 6 morts et au moins 16 disparus en fin de semaine dernière. Une baleinière qui quittait Kisangani pour Bassoko a fait naufrage vendredi soir. Nous comptons aujourd'hui 6 corps repêchés, 237 rescapés et au moins 16 disparus, a déclaré Maurice Abibou Sakapela, vice-gouverneur de la province de la Tchopo, dont Kisangani est la capitale. Au Malawi, 2 ministres sont décédés aujourd'hui du COVID-19. Sidik Mia, 56 ans, ministre des Transports et vice-président du Parti du Congrès au pouvoir, avait été testé positif au nouveau coronavirus la semaine dernière. Et le ministre des Administrations locales, Linson Balekanyama, est mort le même jour, 2 semaines après avoir été testé positif. On fait le point avec Eric Manirakiza.
Le président Lazarus Chakwera est profondément attristé par le décès de 2 membres importants du gouvernement aujourd'hui, 12 janvier 2021, selon un communiqué. Sidik Mia, 56 ans, ministre des Transports et vice-président du Parti du Congrès au pouvoir, avait été testé positif au nouveau coronavirus la semaine dernière et il était confiné chez lui avec des symptômes légers. Il est décédé ce matin. Le ministre des Administrations locales, Linson Belekanyama, est mort le même jour, 2 semaines après avoir été testé positif. Le Malawi est confronté à une recrudescence des cas de nouveaux coronavirus. Le chef d'État a attribué cette forte hausse au mauvais respect des gestes barrières, en particulier le port du masque, qui n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé. Un confinement déclaré début avril par le gouvernement avait été aussitôt bloqué en justice parce qu'il ne comportait pas de mesures compensatoires en faveur des plus pauvres.
L'Éthiopie a affirmé mardi que les forces armées du Soudan avançaient dans une région frontalière revendiquée par les deux pays et a averti Khartoum que son attitude pacifique avait des limites. Les deux voisins se disputent la région frontalière d'El Fachaga, 250 km² de terres agricoles fertiles. Début décembre, Khartoum avait accusé les forces et milices éthiopiennes d'avoir tendu des embuscades aux troupes, faisant 4 morts.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a jugé aujourd'hui que la procédure d'impeachment sur le point d'être lancée contre lui par les démocrates provoquait une immense colère chez ses partisans, avant d'ajouter qu'il ne voulait pas de violence. C'était lors d'une de ses rares prises de parole depuis les troubles meurtriers survenus au Capitole à Washington mercredi dernier. Jacques Aristide.
Le président américain, qui est sous le coup d'une deuxième procédure de destitution, a qualifié ce projet des démocrates de totalement ridicule. Il a également d'emblée indiqué qu'il ne souhaitait pas de violence dans un pays en proie à de vives tensions. Le locataire de la Maison-Blanche s'exprimait devant des journalistes avant son départ pour Alamo, au Texas. Il s'agit de sa première apparition en public depuis l'intrusion de ses partisans au Capitole, qui a fait 5 morts mercredi dernier. Le président Trump a aussi estimé que son discours la semaine dernière devant ses partisans avant cet assaut était tout à fait convenable. Donald Trump, qui quittera le pouvoir dans 8 jours, a par ailleurs déclaré que les réseaux sociaux tels que Twitter, qui ont suspendu son compte, faisaient une erreur catastrophique. Il a rencontré hier soir son vice-président Mike Pence, qui a été appelé par les démocrates à démettre Trump de ses fonctions avec le 25e amendement de la Constitution. Et en vue d'une éventuelle procédure de destitution, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, examinera l'acte d'accusation demain et devrait voter ce même jour.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nathalie Barge.
En République démocratique du Congo, le gouvernement va emprunter sur le marché financier intérieur 180 milliards de francs congolais pour le premier trimestre 2021. Il prévoit 9 émissions des bons du Trésor de 3 mois d'échéance pour 40 milliards de francs en janvier, 80 milliards en février et 60 en mars. Le pays a lancé des bons du Trésor fin 2019 pour faire face à ses dépenses publiques élevées. Le Fonds monétaire international a approuvé un décaissement de plus de 487 millions de dollars en faveur de l'Angola dans le cadre d'un accord triennal de près de 4 milliards conclu en 2018 au titre du mécanisme élargi de crédit. Les autorités angolaises ont limité les dépenses non essentielles en 2020, souligne le FMI, qui a déjà accordé près de 3 milliards de dollars à ce pays pétrolier subissant la crise économique. La création d'une grande muraille verte dans le Sahel a attiré des nouveaux financements de plus de 14 milliards de dollars en marge du sommet One Planet lundi à Paris. Ces soutiens permettront de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées et de créer 10 millions d'emplois verts d'ici à 2030, a déclaré le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, qui préside la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonsoir à tous. La liste des 23 lions indomptables locaux qui ouvriront le championnat d'Afrique des Nations face au Zimbabwe le 16 janvier est connue. Le sélectionneur Martin Ndungu Mpile a dévoilé les noms des joueurs retenus pour cette compétition que ses poulains jouent à domicile. En attaque, les Camerounais seront emmenés par Jacques Zoua, vainqueur de la CAN 2017 avec la sélection A, ancien attaquant du Gazélec Ajaccio, du FC Bâle, d'Hambourg et de Kaiserslautern, Yannick Ndjeng, ancien buteur de l'Espérance de Tunis et lui aussi international A, sera à ses côtés. La compétition regroupera 16 équipes et se disputera du 16 janvier au 7 février. Belle consolation pour le Raja Casablanca, sorti à la surprise générale par les Sénégalais de Teguff FC. Avant même la phase de poule en Ligue des Champions, les Marocains ont arraché leur ticket pour la finale de la Coupe arabe des clubs champions. Après sa défaite au match aller 1-0 en Égypte, le Raja a corrigé Ismaili 3-0 à Casablanca lors de la manche retour en demi-finale. En finale, les Rajaouis feront face aux Saoudiens d'Al Ittihad à une date à déterminer. Le vainqueur de la compétition empochera 6 millions de dollars. Les Jeux Olympiques ne seront pas annulés. Les organisateurs des JO de Tokyo ont démenti la tenue de discussions en février après leur report l'an dernier du fait de la pandémie. Le directeur général du comité d'organisation, Toshiro Muto, a qualifié de fausses informations des spéculations de médias japonais selon lesquelles le sort des JO devrait être discuté en février avec le comité international olympique. Face à une recrudescence des cas de coronavirus, le Japon a déclaré l'état d'urgence la semaine dernière à Tokyo. Dans le dernier sondage de l'agence de presse Kyodo, 45% des personnes interrogées ont souhaité que les Jeux soient reportés une seconde fois et 35% se sont dites favorables à une annulation pure et simple. Ici, en basketball, Washington, encore porté par le meilleur marqueur de la NBA, Bradley Beal, 34 points, a corrigé Phoenix 128-107. Gianni Antetokounmpo a mis les Bucks sur la voie du succès en fin de match à Orlando 121-99. On n'arrête plus Charlotte. L'équipe de Michael Jordan a remporté une quatrième victoire d'affilée aux dépens des Knicks 109 à 88. Les Sixers du Camerounais Joel Embiid, 24 points, 11 rebonds, ont concédé leur deuxième défaite du rang 112 à 94 chez les Hawks. L'autre Camerounais, celui des Raptors, Pascal Siakam, a shooté au buzzer pour la victoire, mais son tir a rebondi sur l'arceau avant de ressortir, laissant les Blazers s'imposer 112 à 111. Frustrant pour Siakam, auteur d'un triple-double, 22 points, 13 rebonds et 10 passes décisives.
Merci Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Cameroun, où éleveurs et agriculteurs conviennent des mécanismes de résolution des conflits agro-pastoraux. C'est notamment le cas au nord des Yaoundé, dans l'arrondissement de Bokito, à quelques 150 kilomètres de la capitale Yaoundé. Des éleveurs, Peul Mbororo, fuyant les exactions de Boko Haram et l'insécurité dans la région anglophone du nord-ouest, ont installé des campements dans des villages d'agriculteurs. Des conflits ont vite germé, comme dans le village de Botombo, où un mécanisme de médiation est désormais opérationnel entre les deux parties. Voyons cela avec Emmanuel Juntap, notre correspondant à Yaoundé.
C'est le papier que j'ai arrangé entre...
Foulé Lakoudi est un Mbororo venu s'installer dans le village Botombo, au nord de Yaoundé, dans le département du Mbam et Inoub.
Ça, le bœuf entré dans le sang de tomate de ce monsieur. Je dis que, qu'est-ce qu'il faut? Il me dit que sous le donne-moi 150 000. Monsieur, moi, tu aides avec 115 000. Il me dit qu'il n'y a pas de problème.
Soulé est le médiateur des éleveurs Mbororo lors des conflits agro-pastoraux. Sa médiation consiste à compenser financièrement, au terme des négociations, les agriculteurs dont les cultures ont été détruites par les bovins.
Il y a le bœuf qui a avancé dans le sang des ignames. La personne dit qu'elle a moins, elle donne 12 millions. Ça a donné 500 000, donc ça n'était même pas 2 mois. C'était où? C'était à Nyamanga.
C'est ainsi que plus de 2 500 000 francs CFA ont été versés aux agriculteurs des villages Botombo et Yamben et environnant en 2020. Ce mécanisme de médiation n'a pas cependant été vite accepté par les agriculteurs.
Le gros bétail, n'en étions pas habitués. La cohabitation, nous l'ignorions.
Sa Majesté Michel Mébiné Amata est le chef du village Botombo, où se trouve un campement d'éleveurs Mbororo avec plus de 2000 têtes de bœufs.
Les agriculteurs ne viennent pas paisiblement dire que le bœuf... Leur problème, c'est les représailles. Donc la première des choses, c'est qu'il faut calmer. Après, je convoque le chef éleveur. Quand il arrive, c'est lui qui me situe sur le troupeau qui a fait les gardes. C'est lui qui m'aide à faire venir les propriétaires de ce troupeau. J'envoie ma petite commission locale sur le terrain, qui est composée des bergers et des agriculteurs. Quand ils reviennent ici à la chefferie, on essaye de faire les évaluations. L'agriculteur pose ses doléances pour la contrepartie, quoi.
Lors de la dernière campagne de vaccination, plus de 12 000 têtes de bœufs ont été recensées dans l'arrondissement de Bokito, selon Abdoulaye Wadiri, responsable départemental de l'Association pour le développement social et culturel des Mbororo à Bafia. Un nombre croissant depuis la première installation ici, il y a 8 ans.
Ça que j'ai dit, on fait la réunion à sous-préfecture à Bokito maintenant. Tous les 7, avec les agriculteurs, avec les éleveurs, pour comprendre le conflit.
Pour pacifier davantage la cohabitation, la campagne de transhumance du bétail dans le département du Mbam et Inoubou est encadrée par les autorités administratives. Fred Emmanuel Ndongo, sous-préfet de Bokito.
Chaque année, les défis sont nouveaux. Nous souhaitons arriver à une situation où il n'y a plus de conflit. Une situation où chaque acteur d'un secteur se conduise de manière professionnelle en réduisant à leur plus simple expression toutes les situations qui pourraient nuire à l'activité de l'autre. Nous souhaitons ne plus être seulement là pour résoudre des litiges, mais vraiment pour les prévenir, de manière à ce qu'il y ait des éleveurs dont le bétail n'irait pas détruire les cultures, d'agriculteurs qui profiteraient de la présence du bétail en termes d'engrais.
De sources officielles, le nombre des plaintes relatives aux conflits agro-pastoraux est en baisse ces 2 dernières années dans l'arrondissement de Bokito. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Gabon, le SAMU social fait le point de ses opérations de 2020. Plus de 17 000 personnes affectées de plusieurs pathologies ont été gratuitement soignées par ses équipes. La prise en charge de la grande précarité du pays fonde l'existence du service d'action médicale d'urgence, un maillon du dispositif sanitaire de l'État gabonais qui intensifie ses interventions de nuit. Au cœur des caravanes médico-humanitaires du SAMU social à Libreville, le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzi.
La journée de travail au SAMU social est rythmée par des sans appels téléphoniques.
Merci d'avoir appelé le SAMU social d'abonnés. Bonne soirée.
C'est le quotidien de Fanny Angué et ses collègues assistants de régulation médicale.
Là, on reçoit constamment des appels. Il y a certains appels pour plaisanter, maintenant il y a d'autres appels pour des problèmes qui sont vraiment sérieux.
Le call center du SAMU social reçoit en moyenne 200 appels jour, avec régulièrement au bout du fil des situations urgentes. Il est 7h du soir, le jeune Régis Asoko vient d'être victime d'une agression à l'arme blanche par des bandits. Il est en train d'être pris en charge par les médecins.
Je revenais de chez ma belle-sœur, dans mon retour, on m'a braqué. Ils ont pris le téléphone.
Les actions des maraudes sont de plusieurs ordres. Juste à côté de la salle des soins, une unité d'observation accueille deux nouveau-nés abandonnés par leur mère. Docteur Vincent Lassiaba est le coordonnateur général du SAMU social.
Je vous présente Samuel et Samuela, qui sont deux enfants qui ont été jetés par leurs mères respectives à une semaine d'intervalle à Libreville, dans des poubelles. Nous avons recueilli au SAMU social depuis maintenant 6 semaines. Ils se portent très bien.
Dans le même temps, une autre équipe d'infirmières se prépare à une intervention de nuit. Elle répond à l'appel d'une jeune fille mère en travail. Janine Maroudou, infirmière, chef d'équipe.
Et là, nous préparons déjà des antihypertenseurs parce qu'on pense à une hypertension chez une patiente qui est à une semaine du postpartum.
À peine arrivée sur les lieux, le vacillement de la future maman entraîne une prise en charge immédiate. C'est qu'Odile Londou n'en pouvait plus des complications.
J'ai mal au bas-ventre, ça me lâche, ça me reprend. Ça a commencé à 20 heures là.
La jeune fille qui pourrait accoucher dans les prochaines heures est conduite vers la structure hospitalière la plus proche. Il s'agit d'un cas de figure parmi tant d'autres que Dr Venceslas Yaba et ses équipes gèrent nuit et jour pour 0 franc. Car au SAMU social gabonais, les consultations, les traitements et les médicaments sont gratuits.
Si tu ne peux pas sortir de la maison parce que tu es malade, il n'y a plus de taxi, les attirants se sont arrêtés à 20h, tu appelles qui? Le SAMU social.
Près de 38% de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. Près de 300 000 n'ont accès à aucun soin, s'indigne le patron du SAMU social gabonais. Libreville, Ismaël Obianzi pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo a effectué hier lundi sa première visite au siège de la Voix de l'Amérique à Washington. Il a parlé de l'importance de la radio et de l'histoire de l'exceptionnalisme américain dans le monde. Cindy Sen de la VOA fait le point. Le récit est signé Lionel Gaïma.
Le secrétaire d'État Mike Pompeo est revenu sur certains thèmes qu'il a évoqués lors de ses voyages à l'étranger en tant que chef de la diplomatie américaine. Je parle au public de l'exceptionnalisme américain chaque fois que je le peux. Parce que c'est vrai, l'Amérique est grande et généreuse. Tous ceux qui comprennent vraiment le fondement de notre pays le comprennent. Nous avons toujours recherché une union plus parfaite. Nous n'avons pas toujours raison. Nous avons besoin à la fois de fierté et d'humanité pour notre passé et notre présent.
Pompeo est venu à la VOA quelques jours après que les partisans du président Donald Trump ont envahi le Capitole. Les images du chaos à l'intérieur du temple de la démocratie américaine ont fait la une des journaux du monde entier. Il a dénoncé ces violences la semaine dernière, mais depuis, il n'a fait aucun commentaire. L'expert Michael Kimmage du German Marshall Fund s'est dit choqué que Pompeo n'ait pas mentionné et n'ait pas été interrogé sur le siège du Capitole, non loin de la VOA.
Il était frappant que le secrétaire Pompeo n'ait pas mentionné les événements de la semaine dernière, qui sont d'une importance capitale. Je pense qu'il était vraiment dans l'esprit de tout le monde, et il est étrange qu'il les saute, mais remplissez le vide pour comprendre pourquoi il a pu le faire.
Le gouvernement américain finance la VOA et d'autres radios pour fournir des informations à des publics du monde entier dans des dizaines de langues étrangères. Pompeo a appelé la voix de l'Amérique la voix de l'exceptionnalisme américain. Il a déclaré que la radio internationale avait un rôle important à jouer dans la promotion des idéaux américains dans le monde et n'était pas le lieu pour servir de plateforme au régime autoritaire.
Governments like those in China.
Des gouvernements comme ceux de la Chine, de l'Iran et de la Corée du Nord n'ont pas le respect de la dignité humaine sur laquelle l'Amérique a été fondée. Ces régimes sont l'apathème de tout ce que notre nation représente. Nous savons que le gouvernement existe pour servir le peuple. Ces régimes croient que les peuples existent pour servir le gouvernement. Le travail de la VOA est vital. Vous êtes le fer de lance de la liberté.
Le mandat de Pompeo en tant que chef de la diplomatie américaine doit prendre fin dans quelques jours. Le président élu Joe Biden a choisi l'ancien secrétaire d'État adjoint Anthony Blinken pour devenir le prochain secrétaire d'État américain s'il est confirmé par le Sénat.
Toujours ici aux États-Unis, la Chambre des représentants s'apprête à examiner et mettre au vote une mise en accusation du président Donald Trump cette semaine à la suite des violences commises par ses partisans au Capitole à Washington. Les heurts ont fait 5 morts. Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès, rend compte des différentes options qu'étudient les démocrates pour faire partir Donald Trump quelques jours à peine avant la fin de son mandat. Le récit est signé Jacques Aristide.
Pratiquement une semaine après la prise d'assaut du Capitole par des manifestants pro-Trump pour arrêter le décompte des voix du collège électoral, certifiant la victoire du président élu Joe Biden, les élus démocrates, dont certains ont dû évacuer l'hémicycle lors de l'attaque du 6 janvier, passent maintenant à l'action pour tenter de destituer le président Donald Trump. Leur première option, une résolution appelant le vice-président Mike Pence et une majorité des membres du cabinet de Trump à invoquer le 25e amendement dans un délai de 24 heures pour déclarer le président inapte à assumer ses fonctions. Nancy Pelosi est la présidente démocrate de la Chambre des représentants.
Si le vice-président et le cabinet n'agissent pas, le Congrès peut être prêt à aller de l'avant avec la mise en accusation.
Malgré les appels des émeutiers à le pendre pour avoir refusé d'annuler les résultats de la présidentielle, Mike Pence ne devrait pas franchir ce pas. Un vote sur la mise en accusation pourrait plutôt avoir lieu dans le courant de la semaine. Le président Trump est accusé d'incitation à l'insurrection pour ses propos tenus sur son compte Twitter, désormais suspendu, et pour les déclarations adressées à ses partisans juste avant les émeutes du 6 janvier au Capitole.
Si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays.
À un peu plus d'une semaine avant l'investiture de Joe Biden, les démocrates affirment qu'ils peuvent agir vite. Ted Lieu est un élu démocrate.
Tout cela était très public. Il s'agissait d'une incitation ouverte à amener les gens à empêcher le Congrès de certifier les résultats du collège électoral.
Cela ferait de Trump le premier président de l'histoire américaine à être mis en accusation deux fois. Paul Berman est de l'école de droit de l'université George Washington.
Un président en exercice incitant à une insurrection contre le gouvernement des États-Unis est peut-être la pire des choses qu'un président puisse faire. Et cette déclaration doit être faite. Deuxièmement, et de manière plus pragmatique, s'il était mis en accusation et condamné, cela l'empêcherait de se présenter aux élections à l'avenir.
Il y a un certain soutien républicain aux procédures engagées par le Congrès pour tenir Trump responsable de ses actes. Adam Kinzinger, un élu républicain qui a longtemps été critique de Trump.
Je pense que la meilleure chose à faire pour penser les plaies du pays serait qu'il démissionne. La deuxième est le 25e amendement.
Mais les démocrates ont déjà la majorité des voix pour la mise en accusation. Ils devraient vraisemblablement attendre jusqu'à plus tard cette année pour envoyer l'article au Sénat américain. Un procès en destitution devrait interrompre les autres travaux du Sénat, entravant les 100 premiers jours de mandat de Joe Biden avec une nouvelle majorité démocrate dans les deux chambres du Congrès.
Et c'est la fin de ce journal. À la mise en onde de Lionel Gaïman, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Joselle Morissin. À la présentation, John Lennon, édition en chef, Yves Fall. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.